Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Avant cela, on continue avec quelques infos complémentaires avec toi, Léa Perron. Bonjour Léa.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Un jeune de 18 ans a été tué au couteau vendredi dernier, le 3 mai, aux Aubiers à Bordeaux.
L'auteur des faits est toujours recherché et selon des informations de rue 89 Bordeaux, la piste d'une rixe entre deux jeunes semble privilégiée. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte avec le parquet de Bordeaux. Pierre Urmic, maire de Bordeaux, s'est rendu sur place pour échanger avec les actrices du centre d'animation et les habitants et habitantes. Dans les colonnes de rue 89 Bordeaux, un habitant déplore que, je cite, « Journaliste et politique, vous ne venez ici que lorsqu'il y a la mort ». Depuis hier, une cellule d'écoute psychologique a été mise en place au centre d'animation de Bordeaux-Lac à destination des habitants et des habitantes.
À Floirac, maintenant, une quarantaine d'élèves de l'école Daniel Mitterrand sont tombés malades mystérieusement.
Selon Sud-Ouest, au cours du week-end, une quarantaine d'enfants qui fréquentent l'école ont été pris de violents maux de tête et de vomissements. Pour le moment, difficile de déterminer si la cause de cette affection est d'origine virale ou bactérienne. L'Agence régionale de santé a ouvert une enquête hier et les pistes sont apparemment multiples.
À Bordeaux, deux jeunes ont porté plainte après avoir été agressés par des militants d'extrême droite.
Rue 89 Bordeaux raconte comment, le 15 avril dernier, deux jeunes ont été pris à partie sur le cours d'Albret par un groupe. En cause, les deux jeunes auraient décollé des stickers appelant à la remigration, c'est-à-dire à l'expulsion des étrangers et des étrangères, ou encore des stickers promouvant la Bastide bordelaise, groupuscule d'extrême droite bordelais. Les agresseurs auraient demandé aux deux jeunes s'ils faisaient partie de l'OAB pour offensive antifasciste de Bordeaux avant de les rouer de coups. Les deux jeunes ont reçu 5 jours d'incapacité totale de travail. Ils ont également déposé plainte pour violence en réunion. Pour le moment, les agresseurs n'ont pas été identifiés.
À Sciences Po Bordeaux, les étudiants et étudiantes mobilisés pour la Palestine ont obtenu gain de cause auprès de l'université.
Toujours selon des informations de rue 89 Bordeaux, les mobilisations auraient permis la suspension par la direction de l'université des mobilités étudiantes en Israël et dans la région, ainsi qu'une révision du partenariat avec l'université Ben-Gourion. Après une tentative de blocage de l'université qui a échoué le 30 avril, les étudiants et étudiantes ont obtenu une entrevue pour des négociations avec la direction le jeudi 2 mai. L'université de Sciences Po Bordeaux a également publié un communiqué le 3 mai, exprimant sa solidarité avec les victimes du conflit et son attachement au droit international et aux droits humains. De plus, elle a annoncé la tenue d'une conférence à la rentrée universitaire sur le conflit israélo-palestinien. Les étudiants et étudiantes mobilisés se disent, je cite, « plutôt satisfaits du compromis trouvé ». Restent cependant des revendications en suspens concernant le financement de la chaîne défense et aérospatiale soutenue par les entreprises Thales, Dassault Aviation et Safran. Des mobilisations qui se sont étendues hier au lycée Montesquieu sous l'impulsion de l'Union syndicale lycéenne. Ils et elles réclament un cessez-le-feu à Gaza et veulent rendre hommage aux victimes du conflit.
Ce dimanche 5 mai, plusieurs mobilisations contre les violences transphobes ont eu lieu partout en France et notamment à Bordeaux.
Oui, près de 700 personnes étaient mobilisées ce dimanche devant l'hôtel de ville. En cause, un rapport de la droite sénatoriale est notamment à l'étude sur ce qu'ils appellent, je cite, « la transidentification des mineurs ». Les parlementaires LR préconisent notamment d'interdire l'administration de bloqueurs de puberté aux personnes trans mineures. Les personnes mobilisées et concernées préconisent, elles, tout l'inverse. Cette proposition de loi coïncide avec la publication d'un livre le 11 avril des deux militantes transphobes, Dora Mouto et Marguerite Stern, intitulé « Transmania ». Et cet ouvrage qui a été promu par l'ensemble de l'extrême droite politique. Eden, présent aux manifestations, a exprimé sa colère dans rue 89 Bordeaux. Il dit, je cite, « J'ai 18 ans depuis quelques mois et c'est la première fois que je me sens écoutée et soutenue. Pendant toute ma puberté, je n'ai jamais été aidée. On m'a toujours dit que la transidentité était une phase, quelque chose qu'on m'avait mis dans la tête. Je souhaite que les mineurs trans soient mieux accompagnés dans leur parcours. » Et de prochains rassemblements devraient avoir lieu dans les semaines qui viennent.
Merci beaucoup Léa pour toutes ces infos.
Midi 15, c'est le plat de résistance sur la clé des ondes. On parle de foot amateur à l'occasion des élections pour la présidence de la Ligue de foot de Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire l'échelon régional du foot en France. Le président sortant, Saïd Njimi, a été très critiqué. Une procédure disciplinaire est en cours à son encontre. Deux candidats se sont déclarés pour lui succéder. Ce sera en novembre prochain. Mathieu Rabhi, qui est actuellement président de l'échelon départemental dans les Pyrénées-Atlantiques, et François Grenet, ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Dimanche dernier, dans l'émission « Aqui Portugal » sur notre antenne, c'est François Grenet qui était invité et qui a donné sa vision du foot au micro de Félix Albano. Félix Albano qui connaît bien le sujet pour exercer lui-même comme arbitre de matchs de foot amateur. On écoute tout de suite leur discussion.
Aujourd'hui, nous recevons François Grenet. Vous avez eu l'occasion de l'entendre. Il est là, face à moi. Bonjour François.
Bonjour Félix. À toutes et tous.
Donc, on va parler un petit peu de François Grenet, donc formé à Bordeaux, après avoir débuté sous les couleurs de l'Aviron Bayonnais. François Grenet réalise la majeure partie de sa carrière sur le maillot des Girondins de Bordeaux, attaquant converti arrière droit. Il met quelques années à s'imposer, mais parvient à ses fins. Remporte notamment le titre de champion de France en 1999, perdant progressivement. En temps de jeu, il saisit, donc en novembre 2001, il signe à Derby compris. L'expérience est mitigée, François Grenet signe en août 2002 au stade Rennais. Entre 2002 et 2004, de nombreuses blessures, ça arrive. Vous avez quitté le club pour disputer les deux dernières saisons avec Nice. En 2006, donc, vous prenez votre carrière, encore jeune, vous auriez pu jouer presque aujourd'hui encore. Regardez Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, entre autres. Bon. En 2006, donc, vous prenez votre retraite, puis vous êtes reconverti dans le monde des assurances. Finaliste, donc, en 1900, Coupe de la Ligue, je crois, 1997-98, champion de France en 99, et finaliste de l'UEFA en 96. Aujourd'hui, quels sont les souvenirs que vous gardez en tant que joueur professionnel de football ?
Les souvenirs, c'est d'abord la chance, le bonheur d'avoir fait partie de ceux qui ont réussi à devenir footballeur professionnel. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs aussi avant ça de toute ma période de jeune footballeur à l'Aviron Bayonnais, comme tu l'as dit, là où tout a commencé à l'âge de 6 ans. Et de toute ma période après au centre de formation des Girondins. Je me rappelle d'une très belle époque où on avait des groupes de joueurs, des coéquipiers. En fait, tout était positif. Il n'y avait pas de concurrence, ce n'était que de l'émulation. Et ce que je retiens de tout ça, en premier lieu, c'est toujours... Vous savez, j'ai grandi à Bayonne, famille de rugby. Et pour moi, c'est toujours ce qui a primé, c'est le collectif. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, beaucoup, mais c'est l'évolution. Hein. On est dans l'individualisation à outrance des performances, etc. Et le football demeure un sport collectif, où l'individu n'est rien sans le collectif. Donc moi, ce que je retiens le plus, c'est tous les coéquipiers que j'ai, les éducateurs, entraîneurs que j'ai côtoyés, qui ont toujours été bienveillants, qui ont tous contribué à un moment ou à un autre à être ce que je suis devenu. Donc je dois beaucoup au football, le football m'a beaucoup apporté. Mais pour moi, rien des plus belles émotions, les plus belles victoires sont l'œuvre collective. C'est ça que je retiens.
Il était comment, François Grenet, sur le terrain?
Il était compétiteur, généreux, je pense, parce que, j'ai une formation rugby, j'allais au tampon, comme on dit. Je raisonnais en fait collectif. Et si à un moment donné, notamment jeune, j'ai pu briller, j'ai toujours eu conscience que c'était grâce au collectif. Donc j'en récoltais individuellement les fruits, mais c'était un travail collectif. Et c'est ce que je retiens. Toutes ces émotions, ces moments partagés avec tous mes coéquipiers au fil des ans, que ce soit jeune, que ce soit après en pro. J'ai eu ce bonheur et cette chance-là, non seulement de faire carrière, mais de connaître des gars chouettes, de croiser des gens bien, Et c'est ce que je retiens. Après, quand j'étais compétiteur, voilà, j'ai eu la chance de gagner aussi.
Et puis on mouillait le maillot. Aujourd'hui, c'est
la moindre des choses.
Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt. Je parle de foot professionnel, de haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt. Je pense que c'est l'argent qui compte. Et puis plus ça va, plus c'est des contrats. C'est des millions, quoi.
Oui, il y a l'argent, évidemment. Mais c'est l'évolution du football et de son économie. Tant mieux pour eux. Pour ceux qui en bénéficient.
Oui.
Ils n'ont rien volé.
Bien sûr.
Mais à partir de là, tu le disais, j'estime que la moindre des choses, c'est de mouiller le maillot. Tu peux passer à côté d'un match, tu peux être dans un jour sans. Le seul devoir que tu as, c'est de tout donner.
Aujourd'hui, vous êtes candidat à la direction d'une des plus grandes ligues de France. Qu'est-ce qui a déclenché en vous cette motivation de prendre la direction de la Ligue d'Aquitaine de football?
Ah, c'est pas la motivation de prendre la direction de la Ligue d'Aquitaine, c'est la volonté de me présenter.
Il y a eu urgence?
Il n'y a pas urgence. Il se trouve que le timing fait que le président, le futur ex-président, M. Njimi, aura fait deux mandats et n'a pas, de par les règlements et les statuts, n'a pas la possibilité d'en faire d'autres. Donc, il y a une succession qui est ouverte et j'ai décidé de m'engager dans cette succession. Pourquoi ? Je l'ai pas mal évoqué à travers ce que je viens de raconter. Beaucoup, voilà, j'ai 49 ans, je réfléchissais l'autre jour. Le foot, c'est 38 ans de ma vie. D'abord en tant que...
Et c'est pas fini.
J'espère.
C'est pas fini.
J'ai encore à donner dans un autre registre, mais c'est, voilà, c'est 38 ans de ma vie, 35 ans dans notre région, sur le terrain, en dehors des terrains, puisque j'ai un fils à 6 ans qui a voulu faire du foot. Et donc, je suis revenu autour des terrains du foot amateur. Voilà, et après, je suis revenu dans le foot officiellement en tant que chargé de mission à la Ligue. Donc j'ai pu et j'ai eu la chance de sillonner le territoire de cette grande région, tu l'as dit, la plus grande, la plus vaste de France. Et il y a une diversité extraordinaire. C'est pas simple pour beaucoup aujourd'hui. Et j'ose espérer que, en tout cas, on va tout faire pour avec mes coéquipiers, pour se mettre au service du football. On va peut-être y revenir, mais j'estime que, en tout cas, je m'y engage déjà. C'est aux instances d'aller vers les clubs.
Et vous avez...
C'est pas aux clubs d'aller vers les instances.
Et vous avez déjà une idée de ce que vous allez changer, faire dans le fonctionnement de cette Ligue d'Aquitaine?
J'ai des convictions, des idées et des valeurs surtout.
Ben oui.
Et j'ai envie de dire, quand on voit le contexte actuel, malheureusement.
On va en revenir.
J'ai du mal à comprendre comment on peut en arriver là. Et je me mets surtout à la place. C'est mon cas en tant que passionné de foot aujourd'hui. Et encore plus ceux qui font le football, c'est-à-dire les clubs amateurs avec tous leurs bénévoles, tous les gens qui donnent de leur temps à leur passion et qui sont spectateurs de tout ce qui se passe aujourd'hui. On ne parle plus de football, on parle d'affaires, on parle de querelles, je ne sais pas, d'égo politique. Et je le déplore, je trouve que c'est navrant. C'est depuis quand on n'a pas parlé de football. Donc j'ai envie de dire que le programme aujourd'hui, d'abord, c'est de l'apaisement, de l'unité, retrouver de l'unité, de la solidarité, parce que le football appartient à tous, mais ceux qui le font, on peut dire ce qu'on veut, ce sont les clubs, c'est la base, ce sont les clubs amateurs. Après, les instances sont là pour aider, accompagner, en étant sur le terrain et en proximité. Parce que la réalité, on dit souvent ça quand un match se joue, la réalité, c'est pas le papier, c'est le terrain. Mais j'estime que c'est pareil au niveau de l'instance. La vérité, elle vient du terrain, elle vient des territoires. Notre région est vaste. Elle a un football rural de territoire. 1300 clubs, 700 qui ont moins de 100 licenciés. Voilà.
François, on constate encore qu'il y a une certaine insécurité dans certaines rencontres. Comment vous allez gérer ça? Beaucoup d'actes de racisme, beaucoup encore en 2024. Comment vous allez gérer tout ça là ?
Gérer, il faut d'abord, il y a de la prévention toujours, c'est le travail de fond. Après, il faut trouver des idées, des actions fortes pour qu'à court terme, cet environnement évolue et on espère qu'il change. On a tous connu ici autour de la table un football beaucoup plus apaisé. On parlait du football professionnel et de l'évolution des générations. Aujourd'hui, c'est différent. Les temps ont changé, que ce soit certainement au niveau de l'éducation, des valeurs de base qui sont devenues, j'appelle ça des valeurs de base parce que bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Avant, pour nous, c'était la base, c'était les fondamentaux, c'était normal. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu exceptionnel. Donc, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village, beaucoup de pédagogie, de prévention. Et après, des actions, j'ai envie de dire, de impactantes autour des terrains. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on va y passer beaucoup de temps. Et je réserve toutes les idées concrètes et solutions, je l'espère, quand nous dévoilerons avec mes coéquipières et mes coéquipiers le programme à la rentrée prochaine avec la liste. Mais c'est insupportable d'être autour de matchs de jeunes, de voir le comportement de certains gamins sur le terrain, de voir encore pire le comportement de certains éducateurs, le comportement de certains parents. Ça suffit. Ça reste un jeu, du plaisir, et on l'oublie. J'ai l'impression que même au niveau du football amateur, au niveau des jeunes, on est déjà dans la perspective du professionnalisme. Mais bon sang, moi ça me fait pas peur, mais ça m'interpelle évidemment. Et je me dis voilà, qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il est temps de retrouver un football apaisé. Et ça part toujours des locomotives. On ne peut pas maîtriser le haut niveau, même si je pense qu'il y a là aussi des choses qui doivent être prises à bras le corps. Au niveau du football professionnel, mais ça, on ne le maîtrise pas. Donc c'est à nous, par rapport à tout ce qu'on maîtrise, d'être vertueux, d'être exemplaire. Et on va s'atteler à l'être. Et d'abord, si on parle de gouvernance, d'être dans la transparence, dans l'échange, dans le dialogue, dans l'exemplarité. Je pense que ça part toujours des locomotives, des gens qui impulsent.
François, au niveau de l'arbitrage, on sait qu'il y a 40 arbitres tous les ans qui arrêtent l'arbitrage. Ce ne sont pas les plus jeunes, mais ce sont des arbitres confirmés. Pensez-vous améliorer un peu quelque chose là-dedans ? Ou apporter votre
il faut déjà...
soutien déjà, et puis faire en sorte de... Pourquoi il y en a autant ?
Il faut faire le constat et l'analyse. Et ça passe d'abord par savoir pourquoi. Ceux qui arrêtent. J'ose imaginer que le contexte, on vient de l'évoquer autour des terrains, n'y est pas pour rien. Après, il y a deux... Il y a l'arbitrage des adultes, il y a l'arbitrage jeune, des arbitres adultes, des arbitres jeunes. Les uns comme les autres souffrent dans leur passion, dans l'exercice de leur passion, du contexte général qu'il y a sur et autour des terrains. Donc aujourd'hui, on va parler concrètement, il y a une initiative de Brice, tu me dis si je me trompe, qui a été prise à l'initiative du district du Vaucluse d'équiper sur certains matchs classés à risque, dans un contexte que l'on peut appréhender, d'équiper ces arbitres de caméras sur eux. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça demande des moyens, évidemment, mais je pense que c'est une bonne initiative. Pourquoi ? Le fait que les joueurs, l'environnement, sachent que l'arbitre est équipé d'une caméra qui enregistre de fait l'image et le son.
Qui va écouter ça ? Qui va regarder ça ? Qui gère ça ? La Ligue ?
Après, ça dépend du niveau des compétitions.
Voilà.
Le district, les niveaux district, c'est le district. Niveau régional, c'est la Ligue. Mais je reviens à l'unité. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour faire en sorte que ce soit au niveau district, que ce soit au niveau régional, que tout le monde tire dans le même sens pour éradiquer ce contexte qui est pesant et dont tout le monde est là. Et à partir de là... Je parlais de cette initiative pour finir là-dessus, si tu me permets, Félix. Le fait que l'arbitre soit équipé d'une caméra qui enregistre l'image et le son, forcément, les joueurs ne vont pas se comporter de la même manière, si tant est qu'ils soient tentés de ne pas respecter l'arbitre, de ne pas se respecter entre eux, les bancs qui ne sont pas loin, etc.
Ah, ça peut calmer beaucoup de
choses. Beaucoup de choses. Les spectateurs aussi autour le savent également, même si parallèlement... À travers les spectateurs et le contexte autour des terrains, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de clubs, et il faut peut-être réfléchir là-dessus aussi, en aider certains qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas pensé, s'équipent en
caméra
pour filmer leur match.
Oui.
Voilà, on peut se servir de ça aussi, c'est le deuxième point, par rapport à tous les dossiers après qui arrivent en commission de discipline, on peut avoir des preuves matérielles, concrètes, pour que les dossiers soient traités en toute impartialité et que, la justice soit juste, c'est tout ce qu'on lui demande.
J'ai une question qui vient de Dordogne, José da Silva, donc arbitre de foot aussi, qui vous demande, pour les petits clubs, quelle aide apporterez-vous justement à ces clubs qui sont en difficulté?
Alors, j'aime pas parler de petits clubs, je préfère parler de... Je trouve ça péjoratif.
Un soutien.
Il y a des clubs modestes.
Voilà.
Il y a des clubs, il y a des gros clubs, les clubs de ville, de métropole, qui, pour certains, refusent même des licenciés. Et il y a notre football, je l'évoquais tout à l'heure, 700 clubs sur 1300 dans notre grande région, qui ont moins de 100 licenciés. Et pendant que certains clubs importants, très importants, refusent des licenciés, on a des clubs. Mais qui sont en mode survie, qui sont obligés de s'entendre, de fusionner pour exister ou pour survivre. Et ces clubs-là, je m'en suis rendu compte, bien évidemment, lors de ces rencontres avec la Ligue, ces clubs-là ont un sentiment à minima d'isolement et, pour certains, d'abandon. Donc je reviens à ce que je dis, sans rentrer dans le détail, comme je l'évoquais tout à l'heure pour l'arbitrage. Mais il y a, à mon avis, un positionnement qui est très clair et qui doit soulager, aider et accompagner ces clubs qui en ont le plus besoin, c'est de la proximité. Tant au niveau des instances qu'au niveau des techniciens, je pense qu'on se doit de revenir sur du terrain, sur de la proximité. C'est en étant sur le terrain, sur la proximité, qu'on aura les retours les plus concrets et les plus justes et qu'on pourra adapter les solutions les plus concrètes et les plus justes par rapport à ce contexte de ce type de club.
Il y a une dame qui vous demande, que vous connaissez, je suppose, Madame Christiane Fano, pardon. Christiane.
D'accord.
Christiane Fudao. Fudao, voilà. Oui. Voilà, c'est portugais qui est... Alors, la situation de foot amateur, donc on revient un petit peu de foot amateur, en France, donc, qui, en Aquitaine, est une catastrophe. Des bénévoles qui se démènent à servir à la bouvette, à laver, plier, ranger les maillots et tout ça pour un rond. Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, je pense que c'est...
La crise juste... du bénévolat.
Oui, voilà.
Bien sûr. Alors, le foot est le plus grand milieu associatif français en effectif, en densité. Et forcément, c'est le miroir grossissant de tout. Donc la crise du bénévole, on ne peut pas y couper. J'ai envie de dire que tant qu'au niveau des instances politiques nationales, il n'y aura pas une reconnaissance de ce statut, avec différentes solutions qui ont été envisagées mais qui sont trop onéreuses, paraît-il. Donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas pu être mises en place. Là, encore une fois, on ne le maîtrise pas ça. Par contre, ce que l'on maîtrise dans les instances départementales et régionales, c'est d'insister sur la valorisation et comment dirais-je, Oui, la valorisation, la reconnaissance des bénévoles existants pour les soutenir. On sait que c'est difficile pour eux. On parlait des arbitres, mais il y a des bénévoles qui ont aujourd'hui envie de jeter l'éponge. On parlait de l'évolution des générations parallèlement aussi. Les jeunes ont peut-être plus de mal que les anciens à donner sans rien attendre en retour. Mais voilà, il faut les soutenir, il faut les valoriser et il faut les accompagner aussi. Je pense qu'il y a des bénévoles dans des clubs qui souffrent aussi, qui se sentent abandonnés par rapport à tout ce qui est de lourdeur administrative, de règlement. Et je parlais de proximité. Je pense qu'il faut aussi accompagner en ce sens. Il y a des clubs qui n'ont pas les moyens, la possibilité de se structurer comme certains autres. Eh bien, on doit les accompagner, on doit les aider en étant proche d'eux et faire en sorte qu'ils se sentent accompagnés et dévalorisés. Et je pense profondément et sincèrement qu'en se sentant considérés, reconnus, ça les incitera peut-être plus facilement à moins, ou je l'espère, à pas avoir envie de jeter l'éponge.
Avant de passer la parole à nos collègues, à Philippe Dantaz et puis à Alexander, comment vous voyez-vous l'avenir de la Ligue d'Aquitaine?
Comment si je le vois?
Oui, comment vous le voyez?
1300 clubs, une seule équipe.
On va donner la possibilité à, puisqu'il est là, Alexander, je sais que ça le tient à cœur de vous poser une petite question. Et ensuite, José, mais bon, on va annoncer d'abord. Alexandre, vas-y.
Mais déjà, bonjour à tous. François, ça fait plaisir de te voir un peu.
Alex, merci, moi aussi.
On se croise souvent sur Internet. Moi, j'ai une petite question. C'est, tu sais, mon appartenance au football féminin, notamment à la sélection basse, puisque je suis sélectionneur adjoint de l'équipe féminine.
Oui.
Donc, moi, j'ai une question par rapport au football féminin. Comment tu vois la vision en Nouvelle-Aquitaine et en France? Parce que, par exemple, on voit la situation actuelle des clubs, notamment en D3 féminin, là, qui va descendre, les Girondins qui descendent en D2. Les difficultés qu'ont certains clubs à monter une structure féminine ou à développer le football féminin dans leur club. À titre personnel et au niveau des élections, qu'est-ce que tu peux faire pour sensibiliser le projet de football féminin? Parce que même on voit au niveau des JO, on n'a pas beaucoup d'équipes féminines représentées sur le tournoi féminin.
Alors le football féminin a été dans une bonne dynamique, hein, a quand même beaucoup progressé. Là, c'est vrai que ça fait quelques saisons qu'on sent que ça stagne un petit peu, certains que ça régresse. Une fois de plus, 200 000 licenciés dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Le foot féminin, c'est à peu près 10%, 10-11% sur ces 200 000 licenciés. Donc là aussi, je parle de chiffres, donc forcément c'est une niche aussi. Et vous en subissez les conséquences parce qu'on a du mal à trouver de nouvelles licenciés, à entretenir, à fidéliser. Donc c'est pas simple. Moi j'estime qu'il y a toujours besoin pour impulser, pour impacter, de locomotives dynamiques et vertueuses. J'ose espérer que l'équipe nationale, à un moment donné, va pouvoir performer vraiment et gagner quelque chose. On sait l'impact que ça a pu avoir au niveau des garçons. Je pense que ça peut être le cas au niveau des filles. Mais ça, on ne le maîtrise pas. Il y a la Ligue de football féminine professionnelle qui vient d'être créée. C'est super pour le statut de ces joueuses, mais c'est l'élite. C'est une reconnaissance et c'est très bien, ça va dans le bon sens. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut maîtriser? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller les capter, entre guillemets, ces jeunes filles, etc. J'attends des mesures concrètes de valorisation là aussi, d'événements qui promeuvent positivement la pratique, etc. On peut en parler évidemment. Mais ce que je constate dans la réalité d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? On parle souvent de mixité pour plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Je pense que pour les jeunes footballeuses, il faut aller vers la mixité. Il y a ce cap à 16 ans où il y a l'évolution physiologique, physique des ados, filles et garçons qui vont prendre, entre guillemets, des chemins différents. Et c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus le choix, où il faut une équipe féminine, il y a des équipes garçons. Mais jusque-là, est-ce qu'il n'y a pas intérêt? Moi, tous les stages, les matchs auxquels j'ai pu assister, sans a priori, mais avec quelques interrogations, à des équipes mixtes, j'ai été très agréablement surpris de la bienveillance et de la solidarité qu'il y avait entre filles et garçons. Et je me demande, Alex, tu connais ça mieux que moi, je te pose un peu la question en le disant, est-ce que dans cette pratique en jeune, quand tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire ton équipe féminine, est-ce que, au même âge, même capacité, les filles ne progressent pas plus dans la mixité qu'entre elles? C'est une question que je pose.
Voilà, François Grenet au micro de Félix Albano. C'était dans l'émission Aqui Portugal, dimanche avant-hier, sur la Clé des Ondes.
Je sais que tu ne m'écoutes. m'écoutes pas. Quand je marche, tu m'écoutes.